La nuit prochaine pour nous, le Sénat examinera en séance publique le texte visant à reporter les élections provinciales en 2026. Ce sera à 3h du matin pour nous. Le Mont-d'Or a établi son bilan de la délinquance dans la commune en 2025 et la délinquance a baissé sur la commune de près de 18% comparé à l'année 2023 alors qu'elle a augmenté de manière générale sur le territoire. Malgré le contexte économique qui n'est pas favorable à l'emploi, la province Sud proposait aujourd'hui un job dating pour mettre en relation des jeunes et de potentiels futurs employeurs. C'était aujourd'hui au Coëcara. Un nouvel événement dédié au cinéma va voir le jour sur le territoire. Le festival Récif succède au Festival de la Foi. Plus ouvert sur les œuvres du Pacifique, mais toujours avec une mise en valeur des jeunes, le festival itinérant débutera le 7 novembre prochain. Les triathlètes calédoniens sont arrivés en Australie pour les championnats du monde de triathlon. Ils se frotteront dès demain à quelques 4000 triathlètes venus du monde entier. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. La Nouvelle-Calédonie érigée en priorité et urgence nationale et cela se traduit dans les faits. La nuit dernière pour nous, on a parlé du territoire lors du Conseil des ministres avec la présentation du projet de loi constitutionnelle à l'Assemblée nationale dans le discours de politique générale du Premier ministre et au Sénat où la Commission des lois a adopté la proposition de loi qui reporte les élections provinciales. Et c'est cette nuit pour nous que le texte est examiné en séance publique, Elisabeth Noir.
Les choses s'accélèrent en effet après le passage en commission des lois. C'est ce soir à 18h hors de Paris, il sera 3h du matin à Nouméa, que débutera l'examen en séance publique de la proposition de loi organique qui vise à reporter la date des élections provinciales prévues au plus tard le 30 novembre 2025 à une date ultérieure au plus tard le 28 juin 2026. Le texte avait été inscrit en urgence à l'ordre du jour du Sénat par le gouvernement démissionnaire. Après son adoption cette nuit par le Sénat, il sera transmis à l'Assemblée nationale qui doit l'examiner le 22 octobre. Et là, les choses risquent d'être plus compliquées, reconnaît le député Nicolas Metzdorf qui est actuellement à Paris.
On sait que le décalage des élections provinciales a de grandes chances de passer au Sénat parce qu'il y a une majorité de droite très importante. Par contre, ça sera beaucoup plus compliqué à l'Assemblée nationale où les oppositions font feu de tout bois contre tous les textes déposés par le gouvernement. Je ne suis pas encore certain de vous dire si on est en capacité aujourd'hui de faire voter cette loi qui concerne le décalage des élections provinciales ou non. En tout cas, on va se battre pour y arriver. Ce que je veux rappeler aux Calédoniens, c'est que si on n'arrive pas à décaler ces élections provinciales, il est fort probable, et c'est même confirmé par le Conseil constitutionnel, qu'elles se dérouleront avec le corps électoral gelé, ce que nous ne pouvons pas accepter. La bataille promet d'être rude, mais on va s'y atteler.
Le report des élections provinciales doit donc être adopté cette nuit pour nous au Sénat. Il sera examiné le 22 octobre par l'Assemblée nationale. Et rappelons que le temps presse puisque la loi doit être promulguée avant le 2 novembre, soit 4 semaines avant le scrutin, pour éviter la convocation automatique des électeurs calédoniens avant la fin du mois de novembre. L'association Un cœur, une voix a d'ailleurs adressé une lettre ouverte aux parlementaires pour leur demander solennellement d'adopter la loi organique reportant les élections provinciales. Elle affirme que ce report n'est ni une manœuvre politicienne, ni un passage en force. C'est au contraire, dit-elle, l'occasion de rendre justice à des milliers de Français installés en Nouvelle-Calédonie depuis des décennies, qui sont exclus du droit de vote, déchus de leurs droits civiques. Une situation inédite et inacceptable dans une démocratie. De son côté, il y a quelques jours, le FLNKS avait adressé une demande solennelle aux parlementaires pour leur demander justement de ne pas adopter cette proposition de loi organique.
Et le projet de loi constitutionnelle est lui aussi sur les rails. Il a été présenté la nuit dernière pour nous en Conseil des ministres.
Le Premier ministre Sébastien Lecornu a confirmé lors de son discours de politique générale que la Nouvelle-Calédonie est une priorité et une urgence nationale. Le projet de loi constitutionnelle sur la Nouvelle-Calédonie avait été inscrit à l'ordre du jour du tout premier Conseil des ministres du gouvernement Lecornu II. Il a été présenté par la nouvelle ministre des Outre-mer, Naïma Moutchou, un projet de loi constitutionnelle sur lequel est revenu dans son compte-rendu Maude Bréjon, la porte-parole du gouvernement.
C'est la traduction juridique, vous le savez, de l'accord de Bougival, signé le 12 juillet 2025. Le président de la République et le Premier ministre ont, à ce titre, salué le travail et les négociations qui ont été menées depuis plusieurs mois par Manuel Valls. La ministre a rappelé que la signature de cet accord a été l'aboutissement de ces mois de négociations et que c'était un jalon déterminant dans le processus engagé depuis 35 ans. Les principaux points de l'accord, vous les connaissez, la création de l'État et de la Nouvelle-Calédonie, inscrit dans la Constitution française, la reconnaissance d'une double nationalité, une nationalité calédonienne qui coexiste avec la nationalité française. L'ouverture du corps électoral pour les prochaines élections provinciales de 2026 aux natifs et aux résidents depuis au moins 15 ans. Et le transfert de la compétence en matière de relations internationales. Il s'agit désormais de doter la Nouvelle-Calédonie d'une organisation politique pérenne pour retisser le lien du vivre ensemble, relever l'économie et ouvrir aux jeunes la promesse d'un avenir partagé dans la République française.
Maud Bréjon a également confirmé que le Premier ministre suit de près le dossier calédonien et dans son discours de politique générale quelques heures après, Sébastien Lecornu a bien sûr parlé de la Nouvelle-Calédonie. Il a annoncé qu'il proposera de transcrire les accords de Bougival dans la Constitution avant la fin de l'année.
La fin des accords de Nouméa a laissé un vide institutionnel qu'il faut combler pour permettre la paix sur le Caillou. L'accord de Bougival permet un chemin de réconciliation. Il doit être transcrit dans la Constitution. Le gouvernement proposera la discussion de ce texte avant la fin de l'année afin que les Calédoniens puissent être consultés au printemps 2026. C'est une urgence.
Sébastien Lecornu maintient donc le calendrier d'une réunion du Congrès de Versailles vraisemblablement en décembre et d'une consultation des populations calédoniennes en février. Les choses semblent donc s'accélérer pour la mise en œuvre de l'accord de Bougival, mais il reste encore quelques incertitudes et notamment la situation politique nationale et la censure ou non du gouvernement Lecornu.
Radio Rythme Bleu, opinion.
C'est l'heure d'opinion, votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu, notre question du jour. Selon vous, le Premier ministre Sébastien Lecornu va-t-il parvenir à échapper à la censure ? Si vous pensez que oui, vous tapez 1. Si vous pensez que non, vous tapez 2 et vous envoyez votre réponse au 3146. La réponse à notre question d'hier, 69% des auditeurs de Radio Rythme Bleu qui se sont exprimés par SMS disent qu'ils regrettent que Manuel Valls ne soit plus ministre des Outre-mer. Ils sont 31% à ne pas le regretter. Merci pour votre participation et rendez-vous demain pour la réponse à la question du jour. Le lancement du pacte de refondation économique, financière et sociale de la Nouvelle-Calédonie. Le coup d'envoi a été donné hier soir lors d'une séance plénière qui s'est tenue à la résidence en présence des responsables politiques, économiques et sociaux, du haut-commissaire et de la directrice de la mission interministérielle, Elisabeth Noir.
En présence également de la nouvelle ministre des Outre-mer, Naïma Moutchou, qui est intervenue en visioconférence depuis Paris. Mais l'ordre du jour, c'était bien le lancement du pacte de refondation sur la base d'une méthode fondée sur la concertation et la transparence. L'objectif, c'est à la fois d'être très opérationnel et d'associer le plus largement possible la société calédonienne. Cette méthode a d'ailleurs été présentée ce matin par le haut-commissaire et par la directrice de la mission interministérielle. En présence du président du gouvernement, Alcide Ponga, et de Christopher Gigès, membre du gouvernement en charge de l'économie. L'enjeu de ce pacte de refondation, c'est un retour aux équilibres financiers et une refonte structurelle des politiques publiques. Pour cela, 5 groupes de travail ont été mis en place avec des objectifs à court, moyen et long terme. Les précisions de Claire Durieux, la directrice de la mission interministérielle.
Parmi les urgences, il y a la question de la relance de l'investissement, d'une part. D'autre part, il y a la question de la vie quotidienne, tout ce qui est transport scolaire, cantine scolaire, santé, logement, etc. Et enfin, il y a la question de la situation financière 2026. Donc ça, ce sont les urgences de très court terme sur lesquelles il faut des réponses d'ici la fin de l'année. Ensuite, il y a des sujets de moyen terme, c'est-à-dire sur lesquels il faut des réponses et il faut un plan d'ici mi-2026. Et donc ça, c'est la trajectoire pluriannuelle de retour à l'équilibre, c'est la diversification économique, l'attractivité, et ce sont les sujets liés au nickel et à l'énergie. Mais ces deux derniers sujets seront traités selon une méthodologie distincte, puisqu'il y a encore des échanges qui doivent avoir lieu avec les élus compétents en la matière et les industriels et potentiels repreneurs. Et enfin, il y a des sujets de long terme, sur lesquels, de la même manière, on lance les travaux maintenant, mais les travaux n'aboutiront sans doute que fin 26, début 27. Et là, il s'agit des sujets de réformes structurelles, santé, logement, jeunesse, transport, pouvoir d'achat, projet de société, et des sujets liés au développement des terres coutumières qui ont été souhaités par notamment le Sénat coutumier et le monde économique.
l'État au chevet de la Nouvelle-Calédonie avec 11 experts autour de Claire Durieux, mais il s'agit bien d'une mission d'appui et d'accompagnement, affirme la directrice de la mission interministérielle. L'État est un accompagnateur et un facilitateur, mais ce sont les élus calédoniens qui ont la compétence. C'est le gouvernement national qui fixera l'aide de l'État pour la Nouvelle-Calédonie en 2026. Dans le budget de l'État, aucun chiffre n'est avancé pour l'instant. Un travail en commun de l'État et de la Nouvelle-Calédonie, mais aussi de toutes les collectivités calédoniennes. Un point sur lequel insiste le président du gouvernement, Alcide Ponga.
On est tous au chevet du soldat Nouvelle-Calédonie. Et il faut que ça soit un travail collectif. C'est vrai que quand on regarde les compétences des différentes institutions calédoniennes, je pense que le moment nécessite que tout le monde travaille dans le même sens. Et j'ose espérer que la méthodologie qui est mise en place pour lancer ce pacte de refondation, j'ose espérer que la mayonnaise prendra et que la méthodologie traversera le 18e gouvernement vers le 19e et éventuellement le 20e, parce que ce sont des chantiers qui sont à court terme, à moyen terme, et surtout il y a des chantiers importants à long terme.
Alcide Ponga qui souligne que la Calédonie a besoin de ses experts pour sortir de la situation difficile dans laquelle elle se trouve aujourd'hui.
Ce sont des expertises qui sont ici pour nous accompagner, et nous conseiller et éventuellement nous alimenter aussi, parce qu'en Calédonie on est un peu nombriliste des fois, on pense qu'on sait tout, mais il y a des choses qui se font dans le monde, il y a des choses qui se font en France, et donc voilà, c'est un travail collaboratif avec toujours le même objectif de replacer la Nouvelle-Calédonie sur une trajectoire qui va la sortir de la situation dans laquelle elle est.
Le travail est donc lancé avec ces 11 experts autour de Claire Durieux. Ils vont se consacrer à la fois aux mesures d'urgence indispensables pour soutenir la relance économique et aux réformes structurelles de plus long terme. Toutes ces réflexions des groupes de travail devront déboucher sur des textes concrets qui seront présentés au Congrès de la Nouvelle-Calédonie.
Déplacement à l'île des Pins pour l'Assemblée générale de l'Association française des maires qui a accueilli la présidente du Congrès de la Nouvelle-Calédonie, Veinma Falaeo. Les maires ont fait le point de la situation en regrettant le délai que prennent la reconstruction et la relance, souligne Pascal Vittori, le président de l'association et maire de Bouloupari.
Ce qu'il en ressort, c'est toujours pareil, c'est les besoins urgents des communes et de nos populations. Ce qu'on constate, c'est que, bien sûr, l'État nous accompagne, mais que les aides mettent du temps à produire leurs effets, que nous en sommes aujourd'hui à essayer de travailler sur les urgences, c'est-à-dire la cantine, le transport scolaire, les aides sociales, la jeunesse, mais qu'on n'est pas encore, malheureusement, dans la reconstruction et dans le redémarrage de l'économie. Donc, c'est ce que nous avons exprimé auprès de la présidente du Congrès.
Bonne nouvelle tout de même avec la confirmation du fléchage d'une partie de la deuxième tranche du PGE. Le constat a été fait hier soir à l'occasion de la séance plénière dans le cadre du pacte de refondation économique et sociale.
On a évoqué également le GTPE qui s'est déroulé hier, donc le groupe de travail des présidents d'exécutif avec le président de gouvernement, les présidents de province, les deux présidents de l'association maire, la maire de Nouméa et l'État. Et donc une répartition qui conclut à 62% du prêt concédé à la Nouvelle-Calédonie par l'État en faveur des communes et qui vont permettre aux communes justement de régler leurs problèmes de cantine, de transport scolaire, trouver des solutions hors temps scolaire pour les jeunes et leur permettre de mener des actions sociales qui sont absolument nécessaires en ce moment.
Les maires ont aussi évoqué le calendrier électoral dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord de Bougival. Dans un autre domaine, ils ont entendu une présentation de l'Agence calédonienne de l'énergie sur l'évolution des dispositifs d'accompagnement technique et financier. En bref, deux arrêtés d'interdiction de vente d'alcool concernant les communes de Koumac et Bouraille. De ce vendredi 17 octobre à minuit jusqu'au lundi 20 octobre à 6h du matin, la vente et la consommation de boissons alcoolisées, y compris chez les cavistes, sont interdites sur la commune de Koumac. Et à Bouraille, la vente d'alcool est interdite à partir de ce vendredi 6h jusqu'à samedi minuit. Des décisions prises pour prévenir de la recrudescence des violences dans la commune. Et en bref, la ville du Mont-d'Or, Michael Gineski, publie son bilan de la délinquance sur la commune pour la période de janvier à août 2025.
Oui, des chiffres présentés lors du Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance qui se tenait hier en présence du haut-commissaire, du procureur de la République, des représentants de la gendarmerie, du gouvernement de la province sud, des autorités coutumières et des associations. La commune du Mont-d'Or qui a connu, selon ces chiffres, une baisse généralisée des actes actes de délinquance de 18,3% en 2025 comparé à l'année 2023, l'année 2024 faisant exception lors de la crise insurrectionnelle. Le nombre de cambriolages reste quasiment similaire, 155 faits contre 154 en 2023. Mais les vols de véhicules ont diminué de plus de 40%, légère diminution également des violences intrafamiliales, des atteintes volontaires à l'intégrité physique. Quant au phénomène des violences sur la voie publique, injures, menaces, jets de projectiles, coups de feu, agressions, il est également en forte baisse, toujours selon ces chiffres, 79 interventions depuis le début de l'année, soit 54% de moins qu'en 2023 pour la même période. J'ajoute que tous les acteurs présents ont salué les efforts et le travail menés conjointement par les forces de l'ordre, gendarmerie, police municipale, mais aussi les sapeurs-pompiers du Mont d'Or. Le maire de la commune, Elisabeth Rivière, a demandé à tous les partenaires de rester vigilants et de poursuivre leurs efforts, car le sentiment d'insécurité persiste chez une partie des Mont-Doriens, selon la municipalité.
RRB, il est 18h01.
Toujours sur le territoire, un nouveau rapport de la Chambre territoriale des comptes. L'instance s'est intéressée à la gestion des ressources humaines de la collectivité Nouvelle-Calédonie sur la période de 2019 à 2024, Mickaël.
Évidemment, une étude qui prend en compte plusieurs années avant la crise insurrectionnelle de 2024. La Chambre qui constate que l'évolution des effectifs est maîtrisée entre 2019 et 2024. Sur cette période, les effectifs dits budgétaires s'élèvent en moyenne à 1949 postes. L'écart entre les effectifs budgétaires et réels est toutefois important. Plus de 200 postes sont vacants en moyenne selon ce rapport. La Chambre a toutefois constaté des pratiques irrégulières en ce qui concerne les chargés de mission du gouvernement ou les collaborateurs de cabinet ou plus généralement les avantages en nature. La Chambre relève également que la mise en place d'une définition du temps de travail, une modernisation des régimes de congés et d'autorisation d'absence ou du régime indemnitaire sont des facteurs susceptibles d'améliorer la performance de la gestion des ressources humaines. Certaines de ces recommandations ayant déjà été formulées dans de précédents rapports, la Chambre invite la collectivité à les mettre en place sans tarder.
Il est 18h passé de 2 minutes. Première pause dans ce journal avant de voir en détail la synthèse annuelle de l'ISEE sur le marché du travail en 2024. A tout de suite.
Toute l'info en trois lettres, RRB. Ensemble pour l'eau, bâtissons la réglementation de demain. La loi du pays sur le domaine public de l'eau et la protection de la ressource est adoptée. Œuvrons à sa mise en œuvre lors du Forum de l'eau 2025. Adaptez-la à vos réalités locales. Répondez à la consultation publique sur son arrêté d'application. Partagez vos propositions en atelier thématique les 21-22 octobre à Koné, les 28-29 à Nouméa et en plénière le 6 novembre au Centre culturel Tchibaou. Inscrivez-vous pour participer. Toute l'info sur eau.nc ou au 25-51-12. Ceci est un message du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.
Primeur propose fruits et légumes, épicerie, œufs, miel, confiture, achats, un rayon boucherie, boulangerie, fromage, crèmerie, un espace vrac, une sélection de surgelés et autres spécialités. Visitez la page Facebook My Primeur Nouméa. Du lundi au dimanche, My Primeur, 20 route du Vélodrome à l'Orphelinat, dans la côte de l'église du Vœu, 30 51 30.
Info soir, Léana Colombo.
Le marché du travail chamboulé en 2024 en raison des émeutes du mois de mai. Selon la synthèse annuelle de l'ISEE, plus de 30 000 salariés ont fini l'année sans emploi, Mickaël Juneski.
Un nombre de salariés inférieur aux niveaux observés en 2020 et 2021 lors de la crise sanitaire. Au total, sur l'année 2024, 108 000 personnes ont été en position de salariat, un effectif en recul de 6% sur un an. L'ISEE constate également une chute de 14,2% des effectifs entre le premier et le quatrième trimestre. Là, on passait après les émeutes, le marché du travail a été complètement déstabilisé. Le nombre d'embauches s'est écroulé. Un recul constaté de 30% par rapport à 2023. La crise du nickel a accentué ce déséquilibre malgré les dispositifs de chômage partiel et les aides publiques exceptionnelles. Par ailleurs, le nombre de salariés débauchés à partir du 13 mai augmente, lui aussi, fortement. C'est plus de 2400 salariés débauchés de plus que sur la moyenne des 5 dernières années. Enfin, même si tout le monde a souffert des émeutes, des catégories de salariés sont plus touchées que les autres, celles des jeunes, des hommes, des pluricontrats et des salariés du privé.
Les institutions qui cherchent toutefois à relancer le marché du travail, avec par exemple un job dating à Coëcara. Tous les ans, la direction de l'emploi et du logement de la province sud organise une journée dédiée au dispositif job d'été. Le but, mettre en relation des jeunes à la recherche d'une expérience professionnelle avec des recruteurs. Plusieurs entreprises se sont déplacées pour faire la rencontre de ces jeunes.
Notre boutique a une forte activité sur la période des fêtes. Donc chaque année, au moment des fêtes de Noël, on prend un job d'été. Le but, c'est d'avoir une petite aide en plus. Et puis, ça permet aussi un ou une jeune de découvrir un métier, le monde de l'entreprise. Et là, c'est vrai que organisé comme ça par la province, c'est super pour nous parce que ça nous permet de rencontrer les jeunes en direct, d'avoir des échanges et de récolter des CV.
On est présent sur la journée job dating afin de rencontrer des jeunes qui sont en recherche de job, notamment pour les vacances. Donc c'est important pour nous d'être là, notamment pour soutenir cette jeunesse qui est en recherche de première expérience pour certains. Ça leur donne une opportunité et surtout de découvrir qu'est-ce que le monde de l'entreprise réellement. Pour nous, une opportunité de les former aussi, de transmettre en fait qu'est-ce que le monde de l'entreprise.
Le dispositif Job d'été offre la possibilité aux Calédoniens qui ont entre 16 et 26 ans d'acquérir une expérience professionnelle dans l'une des entreprises partenaires. Ce matin, près de 1700 jeunes étaient présents à Koekara.
Aujourd'hui, je suis venu trouver un job d'été. J'aimerais bien faire cuisiner dans un établissement ou serveur.
Je suis venu voir les jobs d'été qu'ils nous proposent. J'aime bien tout ce qui est lecture, tout ça. Du coup, je regarde s'il y a des jobs d'été qui vont dans les médiathèques, tout ça.
Moi, je suis arrivé à 7h30. Je suis là pour chercher un job d'été pour permettre d'avoir des revenus moi-même ou que ce soit mes parents qui me les donnent. Et permettre aussi d'acquérir plus d'expérience professionnelle pour augmenter mon grade et aussi d'intégrer facilement les entreprises.
Consolider mon CV, avoir plus d'expérience aussi pour trouver du travail plus tard.
Une journée qui s'est déroulée jusqu'à 16h. La province sud organisera la prochaine édition Job Dating l'an prochain. Notez maintenant ces rendez-vous d'antenne. Le jeudi de l'économie s'intéressera demain au colloque organisé récemment par l'autorité de la concurrence concernant l'intégration régionale. Un retour sur ce colloque en compagnie de Stéphane Reterer, le président de l'autorité de la concurrence, de Christopher Gigès, membre du gouvernement en charge de l'économie, de Guillaume Martineau, membre consulaire de la CCI, et d'Antoine de Palma, le vice-président de NCT&I. Le jeudi de l'économie à suivre demain à partir de midi, juste après notre édition de la mi-journée. Et un peu plus de 2 ans après l'attaque des terroristes islamistes du Hamas sur Israël, sous l'impulsion du président américain Donald Trump, l'État hébreu et le Hamas ont signé un accord qui a permis la libération des derniers otages israéliens retenus à Gaza. Comment la communauté juive de Nouvelle-Calédonie a-t-elle vécu ces 2 dernières années? Comment est accueilli ce plan de paix? Nous en parlerons demain à 7h30 avec Philippe Messman, le président de la communauté juive de Nouvelle-Calédonie. Il sera notre invité du matin à 7h30. Et puis, autre rendez-vous, le congrès de la Nouvelle-Calédonie en séance publique demain dans le cadre d'une session extraordinaire. À l'ordre du jour, l'examen du projet de loi du pays relative à l'identification et à la cession des carnivores domestiques en Nouvelle-Calédonie. Les élus doivent également examiner 2 rapports d'observation définitifs de la Chambre territoriale des comptes, et notamment celui qui concerne les frais de déplacement des élus de la Nouvelle-Calédonie et de ses 3 provinces de 2020 à 2024. Enfin, en bref, le groupe UCFLNKS et nationaliste a déposé une proposition de loi du pays baptisée « Imposition de solidarité sur le patrimoine ». Cette mesure, selon l'UCFLNKS, a pour objectif de taxer les hauts revenus sur le territoire dès lors qu'ils dépassent les 100 millions de francs annuels en cumulant les patrimoines financiers, immobiliers et professionnels. Selon le groupe UCFLNKS et nationaliste, la mesure doit permettre de financer les dépenses engagées pour faire face aux conséquences des crises que traverse la Nouvelle-Calédonie. L'enseignement privé en grande difficulté. La semaine dernière, les personnels de la DEC, la Direction diocésaine de l'enseignement catholique, ont manifesté devant le congrès de la Nouvelle-Calédonie pour attirer une nouvelle fois l'attention des institutions sur les difficultés financières que traverse l'enseignement privé depuis déjà plusieurs années. Pour survivre, la DEC a besoin de financement rapidement car il manque 630 millions pour boucler son budget. La Direction diocésaine de l'enseignement catholique souhaite aussi revoir le mode de financement de l'enseignement privé afin de n'avoir qu'un seul interlocuteur, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Des discussions sont en cours à ce sujet. Manuel Van Erskot, le directeur de la DEC, était notre invité ce matin.
La première idée, c'est de subvenir à nos besoins financiers pour finir l'année. Ensuite, ma deuxième demande qui a été accepté, c'est de réviser cette délibération 360 afin de limiter ce millefeuille juridique, c'est-à-dire plusieurs institutions interviennent, le gouvernement, les provinces, les communes. Le souci, c'est que cette délibération 360 ne s'impose pas juridiquement parce qu'un texte voté par une assemblée élue ou nommée ne peut pas s'imposer à une autre. Elle n'est pas dans une loi organique. C'est pour ça qu'à plusieurs reprises, un numéro 360, il est marqué « peuvent » ou « pourront » ou « pourra ». Et ça, eh bien, des institutions disent « nous ne pouvons pas ». Donc je voudrais que ce millefeuille soit réduit à sa plus simple expression, que nous ayons en face de nous qu'un seul interlocuteur, et je propose donc au gouvernement que ce soit lui qui soit notre seul interlocuteur pour pouvoir bénéficier de ces contributions, ce ne sont pas des subventions, auxquelles la Calédonie nous donne droit.
Une réunion est prévue vendredi au gouvernement avec Isabelle Chamboreau, membre en charge du secteur. Une interview de Manuel Van Erskot, directeur de la DEC, qui était notre invité du matin, à retrouver sur notre site internet rrb.nc. Et l'Union des groupements des parents d'élèves célèbre ses 30 ans d'existence. À cette occasion, elle mène une série de séminaires pour repenser l'école calédonienne. Après une rencontre avec les parents d'élèves de la province des Îles, puis de la province Nord, la parole sera donnée aux habitants de la province sud. Un dernier séminaire se tiendra les 17 et 18 octobre à l'Université de la Nouvelle-Calédonie. Une synthèse générale de ces trois séminaires aura lieu le 15 novembre à l'UNC.
Vous écoutez Radio Rythme Bleu. À Boulou-Paris, Saraméa, La Foy, Moindou, Farino, c'est le sang.
Il reste moins d'un mois avant de découvrir le festival de cinéma Récif. L'événement, acronyme pour réalisateurs émergents cinéma international et film du Pacifique, remplace désormais le festival de La Foy. Un nom qui change, mais une envie qui reste la même, celle de faire découvrir des films de jeunes auteurs au plus grand monde. Et grande nouveauté cette année, la compétition s'ouvre aux réalisateurs du Pacifique et non plus seulement aux Calédoniens. Une bonne nouvelle pour le réalisateur Sacha Wolf. Après son premier long métrage Mercenaire, tourné en partie en Calédonie, il revient ici pour élaborer le scénario d'un nouveau film, toujours sur le territoire.
La question de la culture, elle n'est pas anecdotique dans une vie à l'échelle d'une communauté, d'un pays. Développer la culture, développer notamment la culture cinématographique, la question du rapport aux images, comment on construit son regard. Aujourd'hui, c'est des enjeux cruciaux dans la société dans laquelle on vit. Bien, le Festival Récif, voilà, il est héritier de l'histoire du Festival de La Foy. Je pense qu'en proposant cette ouverture sur le cinéma du Pacifique, du coup, il permet aussi aux cinéastes calédoniens de peut-être augmenter leurs exigences et de se confronter à d'autres cinémas, des grands pays de cinéma comme l'Australie, la Nouvelle-Zélande. Puis on voit le travail qui a été fait sur l'ensemble du festival, c'est assez impressionnant. Ouais.
De nombreux longs-métrages proposés lors de ce festival seront projetés dans les cinémas du territoire. Le Cinécity propose par exemple demain à 18h15 l'œuvre de Sacha Wolf, Mercenaire. Le directeur du Cinécity, Douglas Hickson, constate un réel intérêt des Calédoniens pour le 7e art.
Les Calédoniens aiment les événements. Et c'est vrai que avoir un festival, et Récif va toucher toute la Nouvelle-Calédonie, c'est l'occasion d'avoir un temps cinéma, un temps de production, mais aussi un temps d'aller en salle, de se rencontrer, de mettre en valeur les talents calédoniens qui, depuis quand même des années, ont d'abord commencé par des petits courts-métrages. Et aujourd'hui, c'est intéressant d'avoir ce temps-là où on se pose un peu, où il y a un coup de projecteur, à la fois sur des productions qui sont faites par des jeunes, mais aussi des productions du Pacifique et des productions internationales. Donc c'est vraiment, je pense, important de se recentrer sur la production, sur la salle, sur ce que peut nous apporter la fiction par rapport aux autres moyens d'information ou de loisirs.
Le Festival Récif se déroulera donc du 7 novembre au 13 décembre prochain. Vous pouvez d'ores et déjà réserver vos places pour les projections des différents longs-métrages, causeries ou autres événements du festival. Toutes les informations sont à retrouver sur le site internet recif.nc. Un mot encore de cinéma pour vous signaler que le Cinécity baisse à partir d'aujourd'hui ses tarifs concernant les places pour les films d'ici et d'ailleurs. Le prix de la place sera désormais proposé à 500 francs pour les moins de 20 ans. Objectif, éveiller la curiosité des jeunes en leur proposant des films indépendants et en version originale sous-titrée. Delphine Olivier-Vindine, responsable de la programmation cinéma d'ici et d'ailleurs.
On a conscience que programmer des films d'auteur en version originale, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus attractif quand on arrive dans le hall du cinéma. On regarde les affiches, on regarde aussi les tarifs. Et si on se rend compte qu'il y a un programme à 500 francs la place, eh ben, ça peut aussi rendre curieux pour les capter un petit peu. Et puis, ce qu'on espère, en fait, c'est qu'ils soient agréablement surpris en choisissant d'aller voir ce film à 500 francs la place en VO, en salle cinéma d'ici d'ailleurs. En sortant, ils se disent, tiens, bah, finalement, j'ai appris des choses. choses. J'ai eu l'impression de voyager un petit peu. Oui, peut-être que c'était moins divertissant qu'habituellement, mais je grandis en même temps en voyant ce film et j'aurais envie d'en reparler. Et c'est un petit peu ça qu'on essaye d'installer.
Les réservations peuvent se faire directement au Cinécity ou sur leur site internet. Dans un autre registre, Guy Raguin a été magique à Troyes en métropole. Il s'est illustré en ventriloquie lors du championnat de France de magie. Guy Raguin a décroché la deuxième place au championnat de France de magie dans la catégorie ventriloquie. C'est des étoiles plein les yeux qu'il revient pour organiser le Festival international de magie à la fin du mois. Il était dans nos studios ce midi pour nous parler de son aventure qu'il a partagée avec Léo, sa marionnette.
C'est extraordinaire, j'ai du mal à redescendre mon petit nuage, j'avoue. Ça s'est fait comme ça, j'ai voulu d'abord assister, puisque j'étais en métropole pour les 30 ans de mon fils, donc rien à voir avec la choucroute. Et puis, c'est un copain qui me dit, il y a le championnat de France, donc je voulais y assister. Je lui dis, il est coach de l'équipe de France, a été lui-même champion du monde de magie comique. Et je lui dis, je rêverais un jour de participer. Mais il me dit, fais-le en septembre. Mais lui avait beaucoup aimé, puisque je l'avais invité sur le caillou, toute la ventriloquie et tout ce que je peux faire avec des masques ou avec ma marionnette.
Eh oui, on y arrive, c'est rigolo.
Et donc du coup, il m'a dit fais-le et il me dit ta marionnette qui bouge à distance. Il me dit écoute, moi j'ai jamais vu ça alors que ça fait 36 ans et ça a été incroyable. Lui-même m'a donné vraiment et m'a coaché. Il me dit écoute, ça serait bien que tu y mettes de l'émotion. Et c'est ma femme qui a trouvé l'idée de parler du harcèlement scolaire et du harcèlement sur les réseaux sociaux. C'est ce que j'ai fait et ça a beaucoup plu au public. C'était pas facile et le copain m'avait dit attention, ne t'attends pas à avoir autant de rire que sur ton caillou. Et là j'ai retourné la salle et waouh, c'était incroyable. Je me suis régalé.
Guy Raguin qui organise la 7e édition du Festival international de magie au Centre culturel du Mont d'Or à la fin du mois. Un événement qui lui tient à cœur.
Qui me tient à cœur parce que je vais faire mes commissions dans tous les championnats auxquels je participe, puisqu'il y en a que j'ai vu au dernier championnat du monde, là, en juillet, en Italie,
en
à
Italie,
Turin.
Ouais.
D'autres, il y a 3 ans à Québec, un duo de Japonais. Donc je les prends, je regarde, je me mets à la place du Calédonien. Enfants et adultes, puisque ce sont des spectacles familiaux, et je dis tiens, ça me plaît bien pour là-bas, et puis il faut pas que les gens se déplacent avec 800 kilos de matériel, c'est pas possible. Et voilà, et après je vais les voir, et puis c'est ma 7e édition, j'ai fait venir beaucoup de gens déjà, beaucoup de magiciens, et ils deviennent mes ambassadeurs. Et quand je dis j'ai fait venir un tel, ils se renseignent. Quand les un tel, ils vas-y, c'est pas un festival comme les autres, c'est un festival familial où on nous fait faire plein de choses, et on repart avec du lagon et avec du sable blanc plein les yeux, et ça c'est génial.
Le 7e Festival international de magie aura lieu les 31 octobre et 1er et 2 novembre prochains au Centre culturel du Mont d'Or. Réservation sur ticket.nc. 18h17, seconde pause dans ce journal, à tout de suite.
RRB, pour être au cœur de l'actualité. Pour vous, comme pour nous, il n'y a pas de jour sans l'OPT sur Radio Rythme Bleu. Rendez-vous sur notre site www.opt.nc pour découvrir l'ensemble de nos offres. L'OPT, le monde à portée de main.
RRB, nos efforts valent bien un geste fort. Soutenez-nous, faites un don. Par chèque, virement ou en espèces aux 4 rues de Sébastopol. Toutes les infos sur rrb.nc ou sur la page Facebook. RRB, les fréquences aux couleurs de la France.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
La fin de votre journal avec Léana Colombo.
Et l'actualité dans la région. À Sydney, la police a procédé à une importante saisie de drogue et à l'arrestation de 3 individus liés à un syndicat transnational du crime. Plus de 450 kilos de drogues diverses, dont de larges quantités de méthylamphétamine, de cocaïne et d'héroïne. Leur valeur à la revente sur le marché a été estimée à une somme équivalente à 17 750 millions de francs. 3 pistolets, 300 munitions, un gilet pare-balles et une somme d'argent en espèces équivalente à plus de 30 millions de francs ont également été saisies. La police a procédé à l'arrestation de 3 individus d'origine asiatique qui ont notamment été inculpé pour trafic de stupéfiants. On passe au sport et ils sont nombreux à participer à des compétitions de haut niveau hors du territoire cette semaine. On commence, Michael Juneski, par les mondiaux de triathlon en Australie.
Oui, plus exactement l'étape finale des WTCS organisée à Wollongong sur l'île continent. Les premières épreuves dès demain, ça continuera jusqu'à dimanche. Près de 4000 triathlètes venus du monde entier seront de la partie, dont une trentaine de Calédoniens. Éric Savignac, le président de la Ligue calédonienne de triathlon, sera lui-même engagé voyager en swimbike.
Tous bien arrivés. Une trentaine de Calédoniens participeront aux différentes épreuves, à la fois du format M, format olympique, 1500 mètres de natation, 40 km de vélo et 10 km de course à pied. Également du swimbike avec 1500 mètres de natation et 40 km de vélo. Nous aurons vendredi un format S, 750 mètres de natation, 20 km de vélo et 5 km de course à pied, où nous aurons trois concurrents. Samedi après-midi aura lieu une course spéciale qui est le T100, réservée aux professionnels, donc une trentaine d'athlètes, à la fois chez les féminines et chez les hommes, qui parcourent, eux, 2 km de natation pour 80 km de vélo et le reste en course à pied. Voilà, ce sera une belle épreuve. Au niveau météo, vendredi, ça risque de se gâter un petit peu avec un peu plus de vent et de la pluie.
Ce soir, les Calédoniens participeront au défilé des équipes. Aux côtés de l'équipe de France et d'athlètes tels que la tricolore championne olympique, Cassandre Beaugrand, nos représentants espèrent aussi briller dans cette compétition à l'image de Bernard Lègle, qui avait terminé en 2024 vice-champion du monde d'Alf Ironman chez les vétérans 70-74 ans. Il faut surtout appréhender les conditions australiennes avec la préparation qui se poursuivait aujourd'hui sur place. On retrouve Eric Savignac.
Tout le monde est bien arrivé. Inscription hier. Ce matin, le montage du matériel, des vélos, l'essai, avec un petit peu de warm-up, des échauffements, course à pied, natation. Cet après-midi, repéré sur Wollongong, puisque nous sommes logés à une vingtaine de kilomètres au sud, le parcours vélo, voir un petit peu les embûches, les moments de relance, les petites côtes, et puis toucher l'eau, là aussi, se repérer sur le parcours, notamment une petite sortie d'un petit port où ce sera peut-être moins à l'abri du vent, et l'eau est un petit peu plus fraîche qu'à la baie des Citrons, puisqu'elle est aux alentours de 18-19 degrés.
Eric Savignac, le président de la Ligue calédonienne de triathlon, qui est du déplacement en Australie, à Wollongong, pour des épreuves qui débutent donc dès demain dans ces mondiaux de triathlon.
Autre défi pour les riders, ce sera le lancement de la Diagonale des Fous sur l'île de La Réunion.
Une épreuve de renommée mondiale pour les fans du genre. Cette année, côté calédonien, on retrouvera Alain Villas, engagé sur le parcours phare, la redoutable Diagonale des Fous, distance 175 km, dont 10 500 mètres de dénivelé positif, mais aussi Charlène Guignet sur la Mascareigne, 70 km, 4000 mètres de dénivelé positif. Corentin Guézenec, enfin, sur le Métis Trail, 50 km, 2500 mètres de dénivelé positif. Les premiers départs seront donnés vendredi matin pour nous. Pour mémoire, en 2024, Leslie Nowicki avait réussi un exploit en remportant l'une des catégories intermédiaires, le Trail de Bourbon, 100 km, 6090 mètres de dénivelé positif. Son temps, 16h, 39 minutes, 34 secondes. Elle avait fini 15e au classement scratch.
Hors du territoire, toujours, on parle force athlétique.
Oui, Axel Raymond, on participe, vous le savez, aujourd'hui même au Mondiaux de la discipline en Afrique du Sud, à Cape Town. L'année dernière, il avait remporté le titre de vice-champion du monde chez les Masters. Cette année, il espère faire encore mieux. Il concourra d'ici quelques minutes chez les Masters 1, moins de 93 kilos. La compétition, les épreuves qui ont débuté il y a quelques minutes à peine.
En pétanque, les Océanias de la discipline débutent demain à Wallis et Futuna.
Une délégation calédonienne de 10 membres est sur place à Matautu pour une compétition qui se déroulera sur 4 jours. Nos représentants se mesureront notamment à l'Australie, la Nouvelle-Zélande, Tahiti et bien entendu Wallis et Futuna. Dans le viseur, une place sur le podium qualificatif pour les mondiaux de la discipline.
Encore une compétition de haut niveau en basket. Nos sélections visent quant à elles une place aux Jeux du Pacifique 2027.
Avec la suite de la Melanesian Cup. Alors qu'hier, les féminines s'étaient inclinées contre les Papous 76-70 et après leur victoire inaugurale lundi face aux Salomonaises 63-30, elles se sont reprises aujourd'hui, un succès contre les Vanuatèses, large succès hein, d'ailleurs, 64-43 sur les terrains d'Oniara. Elles disputeront leur dernier match de la phase de groupe vendredi face aux Fidjiennes. Les garçons qui avaient réussi leur entrée en lice contre le pays hôte du tournoi, les îles Salomon, 58-49 hier, ont à leur tour perdu aujourd'hui face à la Papouasie-Nouvelle-Guinée, 77-74. Ils feront face ce jeudi dès 11h aux Vanuatais, puis ce vendredi aux Fidjiens avec l'objectif objectif de se qualifier pour les phases finales prévues le week-end.
On continue de voyager avec cette fois du golf en Égypte.
Le premier tour de la Soma Bay World Cup, le tournoi international des amateurs, et l'équipe de Nouvelle-Calédonie qui était cinquième à l'issue de la première journée au classement individuel. Aldo Rayar pointait au quatrième rang en première série, tandis que Franck Fina était à la quatrième place chez les deuxièmes séries. La Nouvelle-Calédonie affronte ce soir individuellement la sélection du Bénin. Le troisième tour se jouera demain soir en formule double.
Merci Mickaël Juneski. On passe tout de suite à la météo.
La météo avec la 7. 6 magasins sur l'ensemble du territoire pour vous accompagner dans tous vos projets. La 7, construire, rénover, aménager.
Et la météo, c'est avec vous Pierre.
Vigilance jaune pour vent violent. Elle sera maintenue de Païta à Koné sur la façade ouest en raison d'analyses de sud-est pouvant atteindre 25 nœuds avec des rafales voisines de 35 nœuds, soit environ 65 km/h. Cette nuit, sur le nord-ouest, le ciel se dégagera peu à peu, laissant place à une nuit bien étoilée. Ailleurs, les passages nuageux resteront nombreux, accompagnés d'averses. Le vent de sud-est soufflera d'abord entre 15 et 20 nœuds avec des rafales pouvant atteindre 30 nœuds. En soirée, il faiblira temporairement sur le nord-est et les loyautés entre 10 et 15 nœuds. Les températures minimales resteront stables ou en légère hausse, comprises entre 17 et 22 degrés. Demain matin, même si quelques éclaircies feront leur retour sur le nord-ouest, les nuages portés par l'alizé domineront l'ensemble du territoire. Il s'accompagnera d'averses plus fréquentes le long de la côte est. Sur le sud et l'ouest, le vent de sud-est se renforcera nettement, soufflant entre 20 et 25 nœuds avec des rafales de 30 à 35 nœuds. Ailleurs, il restera compris entre 15 et 20 nœuds. Localement, 10 à 15 nœuds sur l'extrême nord-ouest. Côté marée, elle sera basse ce soir à 22h06 pour 0,78 m pour remonter demain matin à 3h30 pour 1,04 m pour enfin redescendre jeudi matin à 9h49 pour 0,57 m.
Merci beaucoup Pierre, c'est toujours compliqué la marée. C'est la fin de cette édition, merci à tous de l'avoir suivi.